Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Il voulait être comédien, il n'en deviendra pas moins artiste. Fou de Django Reinhardt, Sanseverino, avec sa touche manouche et son ton caustique, a su réinventer le swing zigane en lui apportant un brin d'humour et de bonne humeur. Mais ne vous y trompez pas, sous les rythmes sautillants de son banjo, ce joyeux guitariste est chevalier des arts et des lettres. Sanseverino, un musicien éthique, mais pas étiqueté.
Est-ce qu'on peut parler de musique éthique? Ça existe, ça?
Bah oui, bien sûr. On peut parler de tout. Toutes les matières ont une possibilité d'être étiquées, tu vois, pas étiquetées.
Est-ce que tu penses que ta musique fait partie de la musique éthique?
Par certains côtés, absolument pas. Par exemple, je suis dans une énorme maison de disques. Alors, on ne peut pas parler d'éthique parce que c'est toujours très dur de leur faire admettre des trucs d'éthique. Et puis, ce n'est pas leur façon de fonctionner du tout. Pour prendre un exemple hyper simple, si tu as envie d'une pochette avec des trucs de récup ou alors avec des choses équitables et tout, ils éclatent de rire, alors qu'ils font ça chez eux, hein, ils font le tri chez eux et tout, mais c'est pas dans les coutumes de. Et moi, ça fait longtemps que je veux avoir des produits un peu différents et que je demande comme ça du bout des dents, genre, et si j'avais une pochette en carton ou en carton bio ou alors et tout. Mais alors là, pour eux, c'est pas possible, quoi. Eux, c'est nature et des découverte et puis point à la ligne, tu vois. Et alors, c'est pas possible de faire ça. Ce qui fait que si je veux conserver une éthique dans mon travail qui serait comme faire playlist, il faut que je me débrouille de mon côté pour faire ça, pour leur amener après le disque fini. Et en fait, ça me regardera ce qui sera passé avant, mais eux, ils feront pas de distribution spéciale pour tel ou tel truc ou pour un truc de soutien. Enfin, tu vois, c'est carrément pas dans leur règle, quoi. Enfin, leur règlement même, je dirais. Tu vois, c'est même plus une charte, c'est vraiment carrément un règlement. Donc, c'est vachement dur de faire ça avec eux, même si les gens, ils sont d'accord individuellement. Donc, c'est pas possible. Après, moi, de mon côté, j'essaye d'avoir une éthique perso dans ma musique et dans la façon de faire mon métier le plus possible, c'est-à-dire de soutenir les gens qui ont besoin, de défendre des causes que je trouve sympas, de favoriser des trucs qui polluent pas, bien que c'est impossible de faire des tournées avec des camions électriques, ni de prendre des avions planeurs pour se déplacer quand c'est pressé, etc. Tu vois. C'est toujours possible de faire tout un tas de produits dérivés, mais ça c'est toujours assez cher quand même. Tu vois, par exemple, si tu veux faire un merchandising plutôt orienté, par exemple, avec des produits bio, ou ne serait-ce que des t-shirts bio et des trucs comme c'est vachement cher, ça reviendra, ou alors c'est moi qui n'ai pas les bons réseaux, mais ça reviendra à ce que les gens payent en sortie de concert des produits dérivés plus cher que ceux qu'ils auraient acheté dans un autre concert, tu vois. Donc ça, c'est un truc pas facile non plus. Ce qui fait que je peux faire ça que personnellement. C'est-à-dire que mes concerts soient des points de rencontre pour des trucs sympas, de genre Greenpeace ou des gens comme ça qui défendent, qui eux ont une grosse éthique, voire même sont à 100% dedans. Alors ça, je le fais dès que possible. Tu vois, la semaine prochaine, je vais jouer dans une prison. C'est pas un grand truc ni commercial. Je fais ça pour le plaisir de faire plaisir à ceux qui sont enfermés, quoi. Donc c'est pas un truc sur lequel je communique, enfin à part là maintenant on en parle parce que c'est la semaine prochaine, sinon c'est le genre de truc que j'oublie totalement, sur lequel j'oublie de communiquer la plupart du temps. Mais pour moi, dans une grosse maison de disques et chez un tourneur qui est quand même un gros tourneur, je peux pas jouer que dans des théâtres bio, quoi. En gros, c'est pas possible, sinon je peux pas embaucher de gens, je peux pas. Enfin, tu vois, je me retrouve avec des spectacles avec des prix qui me conviennent plus. Je parle pas des salaires, hein, je parle juste du fonctionnement.
Mais justement, le prix du ticket de concert, quelle est ta marge de manœuvre là-dedans?
J'en parle avec le tourneur en début de tournée. C'est-à-dire quand en début de tournée, on décide des salaires et du coût du spectacle. Par exemple, un spectacle avec 15 musiciens est plus cher qu'un spectacle avec 3, bien sûr. Et ça dépend de la technique et du décor, etc. Et si on tombe d'accord sur un coût de spectacle, sur une prod qui serait, par exemple, je sais pas moi, une tournée, un producteur, pour les répétitions et la création du spectacle, il va donner par exemple, je sais pas, entre 20 000 et 60 000 euros, un truc dans ce goût-là, quoi, ça dépend du spectacle. Et ben, c'est après la définition du coût là qu'on va décider de combien sont les places. Okay, donc moi, par exemple, j'attire plutôt des gens qui sont.
Alors fais attention à ce que tu vas dire, nos auditeurs t'écoutent beaucoup.
Mais j'attire plutôt des gens qui sortent en famille. tu vois, donc qui ne peuvent pas avoir des tarifs à 30 euros la place. Donc nous, on décide de, dès le début, de plutôt aller jouer dans des endroits où ce sera 15, de 15 à 20. Et puis après, il y a des festivals dans lesquels on ne peut pas discuter du tout parce que c'est le prix du billet du festival et puis point, quoi. Alors que tu vois, moi je me rappelle avoir, enfin justement, pas été à des concerts où c'est 100 euros. J'ai très envie de voir Tom Waits quand il vient à Paris, mais j'y vais pas parce que, puis moi j'ai pas de problème, ou pas beaucoup de problèmes de finances parce que je gagne bien ma vie, mais je peux pas aller voir un spectacle à 100 euros, quoi, c'est pas possible, quoi. C'est trop, quoi. Même si c'est quelqu'un que j'aime et qui vient jamais en France, je trouve que c'est ce genre de tarif, il est trop. Et moi, quand je joue au Rex Club, c'est 20 euros. Donc si lui, c'est 90, c'est qu'on n'a pas le même salaire. En résumé, je décide un peu de quelques trucs financiers. Enfin, on décide ensemble de ce genre de trucs. Par exemple, les salaires peuvent pas monter de tournée. Les salaires peuvent pas monter jusqu'à un certain point parce qu'après, on est obligé de changer les billets. On est obligé de demander plus, ce qui est logique. Donc bah, on s'arrête entre 15 et 20, et puis des fois c'est 25, alors bon, voilà quoi. Mais on sait que c'est dur pour les familles qui viennent à 4. Je remarque que depuis deux tournées, les gens qui achètent des 10, par exemple, j'ai déjà vu des couples acheter des 10 et qui mettent tous les deux, enfin tu vois, c'est pas celui qui a le porte-monnaie qui paye, quoi. Chacun met ses 10 balles qu'il a dans la poche pour pouvoir acheter un disque ou un souvenir. Puis moi, je suis pas le roi du merchandising, hein. J'ai deux pauvres t-shirts et deux albums à vendre. C'est pas un commerce, quoi, le merch, c'est plutôt pour que les gens qui habitent dans des endroits où ils peuvent pas acheter de disques... C'est leur rendre service et moi ça me fait une espèce de caisse qui fait que je vais pouvoir re-acheter. Parce que les disques, je suis obligé de les acheter moi, mes disques que je vais vendre. Je suis obligé de les acheter et j'ai arrêté de vendre des disques en concert parce que non seulement je dois les acheter moi-même, mais je dois être présent lors de la livraison et c'est moi qui dois faire le chèque. C'est-à-dire si je suis en tournée, le gars il arrive chez moi et puis c'est même pas ma copine qui peut signer le chèque. Comme j'en vends plus qu'eux, je voulais au moins une espèce d'arrangement du style arrangement commercial comme tout le monde fait, payer à 90 jours ou à 30, ce genre de truc n'est pas possible. Donc du coup, à cause de ça, je ne vends pas de disques. Par contre, c'est pas qu'une galère d'être dans une grosse maison de disques, puisqu'il y a une grosse mise en place, il y a un espèce de parc d'attachés de presse démentiel, donc c'est vachement bien pour les promos. Qui fait que par exemple un disque comme celui qui sort en ce moment là, qui est plutôt très populaire, en fait ce disque il va me ramener un peu d'argent, mais surtout il va attirer les gens vers les salles des deux tournées suivantes. Et là je vais pouvoir continuer à être super libre. Tu vois, par exemple, la prochaine tournée que je vais faire, c'est une tournée qui sera écrite à partir d'un livre. Tu vois, donc j'écris une quinzaine de chansons sur un bouquin et le concert va être mono-sujet sur tout ce bouquin. Donc c'est ce que j'appelle moi un projet un peu spé, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas chanter mes succès, les trucs que tout le monde attend, sachant qu'en concert, il y a pas mal de gens qui sont restés au premier album ou au deuxième. Les gens, ils n'achètent pas tous les albums, ils ne savent pas forcément où t'en es. Moi, j'aime bien changer de musique et de style un peu à chaque fois. À partir du deuxième album, j'ai commencé à changer à tous les coups. Et puis les gens, ils sont pas tous au courant de ça. Et puis dans le fond, c'est pas très grave. Dès l'instant que la soirée se passe bien, ces trucs-là, je peux les décider à cause d'un truc un peu commercial qui se sera fait avant. Donc je cède un peu sur des choses en ce moment qui vont me permettre d'être super libre pendant, après, je sais pas, presque 5 tournées, quoi. Donc ça, c'est hyper bien parce que c'est pas non plus un gros effort. Enfin, tu vois, je suis pas obligé de chanter des chansons de Dalida.
C'est un effort, ça.
Non, Dalida, peut-être pas, parce que ma fille aime bien. Tu vois, je suis pas obligé d'avoir des chansons sur un album que j'aime pas, parce qu'on m'oblige par contrat, quoi. Moi, maintenant, j'ai plus 17 ans, malheureusement, tu vois. Donc quand je dis à ma maison de disques, j'aimerais beaucoup faire ça, je leur dis pas, foutez-moi la paix, j'ai le droit de le faire et je le fais, point, fuck. Je leur dis, j'aimerais bien parce que je me sentirais pas bien si je fais autre chose. Et ça, on en discute et on se comprend. C'est d'une certaine manière, mon éthique est respectée, quoi.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.
Sur Radio Éthique, nous, on adore donner à nos auditeurs des éco-gestes, des conseils pour vivre un peu de manière plus responsable, plus écolo. Les éco-gestes ou les conseils de Sanseverino au quotidien, c'est quoi? Je sais pas, des trucs, des astuces?
Oh bah déjà que j'en chie avec le tri, moi. Alors, c'est ouais, des fois, c'est terrible. La poubelle de papier est remplie à mort, alors que celle d'ordure n'est pas remplie. Le truc qu'on a dans le jardin, là, ça s'appelle comment? Mon compost, il est loin, il pleut, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Non, mais écoute, je sais pas, moi j'ai pas de conseils, parce que moi j'attends plutôt des conseils des autres pour pouvoir, tu vois, par exemple là ma clope tombe, donc je la ramasse, j'ai pas des masses de conseils à donner. Moi je fais le moins possible de trajets en bagnole, en plus j'ai une voiture américaine qui pollue grave, donc je l'utilise et qui consomme à mort. Enfin, si tu veux, je cède sur des trucs. Des fois je fais des allers-retours en vélo ou en moto dans Paris, parce que je trouve que c'est bien de ne pas polluer et tout. Et puis par exemple, avant-hier, j'ai failli me faire balancer sur le périphérique en moto alors que j'étais pressé. Du coup, le lendemain, je me suis dit, bon allez, je pollue un peu, quoi. Mais j'ai fait une semaine de transport dans Paris sans prendre ma voiture. Et ça, je le fais le plus possible. Par contre, à Paris, le covoiturage, il est totalement impossible parce que tout le monde va dans son coin et pas aux mêmes horaires. Donc c'est très, 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 très dur, quoi. Ça se fait qu'avec des gens qui travaillent ensemble, en fait, et qui habitent pas loin, quoi. Mais les conseils, c'est plutôt de donner toute son énergie à faire le plus possible des petits trucs plutôt que des gros trucs visibles, quoi. Enfin, je veux dire, économiquement, c'est pareil, quoi. Des fois, tu vas t'acheter un truc que tu trouves luxueux et en contrepartie, après, tu vas prendre des trucs qui seront juste utiles, quoi.
Et côté récup?
Bah, côté récup, moi j'habite à côté d'une menuiserie, je n'arrête pas d'aller piquer des bouts de bois et dans les poubelles pour me fabriquer des trucs pour foutre mes amplis et des étagères pour mettre les bouquins, plutôt que d'aller chez le roi Merlin, que je ne citerai pas, à acheter du bois dont je connais pas la provenance, et puis des trucs comme ça, quoi. Côté récup, je récup le plus possible, quoi. J'aime bien acheter des trucs d'occasion, j'aime bien, mais des fois j'ai pas toujours le temps, mais ça finit par se faire quand même. Et la récup, ouais, c'est dur. Moi, quand je vois les déchetteries, j'ai une déchetterie pas loin de chez moi où je vais de temps en temps balancer des trucs, dans genre de gravats, de machin, de trucs comme ça. Bah. Tu vois bien que tout le monde balance des trucs tout neufs. Alors, j'ai une salle de répète chez moi qui est fait en matière bio et en bois de récup. Donc, bah voilà, c'est ma salle de répète. Elle, je la loue pas, je la fais rien, quoi. Si je la prête à une batteuse qui vient travailler chez moi, mais on a essayé de faire le plus possible des aliments, n'importe quoi.
Des
matériaux bio, merci beaucoup. Hein. Et puis, les menuisiers qui sont à côté de chez moi sont des menuisiers, enfin, que j'appelle bio. Ils utilisent du bois, pas forcément bio, évidemment. Bien que le bois, par essence, c'est plutôt bio. Mais. Et alors avec eux c'est pas mal, parce que dès que j'ai besoin de construire un truc ou un truc chez nous dans notre maison et qu'il faut utiliser des trucs bio, ben eux c'est les premiers conseillers, ils sont à 1m20 de ma porte. C'est vachement pratique pour ça, mais c'est un truc où il faut avoir une culture et il faut se renseigner, il faut aller vers la connaissance des produits utilisables, puis il faut que le truc rentre dans ton budget, quoi, quand tu veux faire alors effectivement la laine de bois par rapport à la laine de verre, j'ai pas fait un énorme calcul de la différence de prix, mais c'était de toute façon possible. Mais il y a des trucs que j'utilise que j'achèterai pas, il y a des trucs de matériaux nouveaux que j'achèterai pas parce que ça rentre pas dans le budget que j'ai décidé pour une salle de répète, par exemple, tu vois. Cette salle de répète, elle nous coûte à peu près 2 000 € et 2 semaines de travail. C'est donc une salle de répète qui est plus qu'économique. Sachant qu'on va arrêter d'aller louer des salles de répète avec du matériel qu'on n'aime pas forcément et du matériel de musique qu'on n'aime pas forcément, et on va payer par exemple 100 € pour une journée de répétition. En 20 jours, notre salle elle est amortie. Donc bon, je parle de ça parce que c'est le dernier truc entre guillemets équitable qu'on a réalisé, ma copine et moi, tu vois. On a peint nous les trucs et tout, et puis il y a des matériaux qu'on n'a pas achetés parce qu'on les trouvait jolis, et puis mais c'est de la merde, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est quand même ça, on peut dire le mot. Enfin, genre tes auditeurs, ils disent, ils connaissent l'expression, c'est de la merde, quand même.
Avec son parler vrai et sa musique qui swing, Sanseverino utilise chaque espace de liberté qui lui est donné pour conserver son éthique et son petit supplément d'âme qui font de lui un artiste engagé, mais jamais moralisateur.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud. La cigarette.